Ce soir, on parle de Bêtes souterraines et de Mines du Nord. Nicolas Rié et Mathieu Thury viennent nous parler au micro de Débrief Film de la sortie de Gueule Noire, c'est mercredi. Opening Weekend numéro 49, c'est parti.
Débrief Film, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a affiché complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à tous et bonsoir pour ceux qui nous écoutent dès ce soir. J'ai le plaisir, comme je le disais, d'accueillir le distributeur de Gueule Noire, Nicolas Rié. Bonjour Nicolas.
Bonsoir à l'équipe, bonsoir à tous.
Accompagné du réalisateur du film, Mathieu Thury. Bonsoir Mathieu.
Salut.
Et j'en profite pour remercier l'UGC Sinistré La Défense, représenté par Simon Le Sauvage, qui nous accueille très gentiment ce soir puisqu'il reçoit l'équipe du film en avant-première. Merci Simon, mais évidemment je ne suis pas seul pour cette émission. J'ai toute mon équipe avec moi, toute l'équipe du Débrief Film, à commencer par Julien Bernard. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde, bonjour Nicolas, bonjour Mathieu.
Salut.
Notre équipière de chic et de choc, Charlotte Escolier. Bonjour Charlotte.
Salut à tous.
Et enfin, aux manettes et au micro également ce soir, Max Marjollet. Bonsoir Max.
Yo.
C'est plus coucou, c'est yo maintenant.
Ça change chaque semaine.
Stylé.
Merci messieurs en tout cas d'être là ce soir pour nous parler de Gueule Noire qui sort mercredi dans toutes les bonnes salles françaises. Alors Mathieu, bon, c'est pas ton premier film, mais quand même on est à un peu moins de 48 heures de la sortie du film. Comment tu te sens?
Ça va, très détente. Ça c'est quelque chose qu'à chaque fois qui surprend. On dit à chaque fois, ça va, t'es pas stressé? Non, c'est plutôt la fin en fait. Bizarrement, quand on lâche un film, on le rend public après. Voilà, j'ai envie de dire, maintenant c'est plus entre nos mains, donc non, je suis pas stressé, j'ai hâte que les gens découvrent le film. Ouais.
Et puis tu vas le montrer ce soir, tu l'as présenté un peu plus tôt dans la soirée au public du UGC Bercy, puis ce soir au public de l'UGC La Défense. Ça s'est passé comment à Bercy?
Bah, c'était super, écoute, salle pleine, on sentait une attente, et puis j'aime bien faire des intros un peu courtes, là j'ai quand même un petit peu parlé un petit peu du film sans en dévoiler bien sûr les tenants, les aboutissants. C'est toujours compliqué de faire des intros, c'est plus facile les Q&A s'il reste des gens, mais là du coup non
oui, puis ça peut créer un peu de frustration aussi parce qu'on a envie de parler du film avec les gens qui l'ont déjà vu, et puis là finalement on peut pas le faire.
C'est ça
le problème des intros. Attaquons tout de suite le vif du sujet parce qu'on on aimerait vous avoir pendant deux heures, mais c'est pas possible malheureusement ce soir. On va tout de suite parler du film et peut-être revenir sur l'origine. Moi, ma première question, c'était un peu de savoir qu'est-ce qui Mathieu a dominé ton envie de faire ce film. Est-ce que déjà il y avait une volonté de faire un film dans le monde minier? Est-ce que c'est ça qui a prédominé ton envie de faire le film?
Alors c'est parti de l'inverse. C'est d'abord le côté Lovecraft. Moi, je suis un gros fan de Lovecraft et très vite je cherchais une façon d'ancrer ça en France, dans un milieu français particulier. Très vite, faire un film d'époque, c'est venu assez vite pour plein de raisons logiques liées à Lovecraft, cette vibe un petit peu d'époque. Et en fait, je me suis dit, qui de mieux que des mineurs qui vont à 1000 mètres sous terre pour découvrir une civilisation inconnue, avec un tombeau, une créature, etc. C'était assez organique et assez logique, et tout de suite ça a aussi emmené toute une logique avec un film de groupe proche des groupes qu'on on va dire des soldats des années 50 dans les films de guerre, etc. Plein de références que j'adore, donc voilà, c'est un mélange de ces deux trucs qui n'ont rien à foutre ensemble mais qui m'ont donné envie de faire le film.
Oui, moi j'avais une petite question, hein, parce qu'on peut voir que dans Hostile, Méandre, qui sont aussi tes précédents films, il y a toujours cette forme d'enfermement presque claustrophobique. Et je voulais savoir, voilà, c'est quand même un thème récurrent dans l'ensemble de tes films. Pourquoi en fait ça?
Faudrait demander à mon psy. non, en fait, alors en fait, c'est pas conscient, moi je suis pas du tout claustrophobe. En deux mots, c'est assez simple, puisque Hostile et Méandre, c'était censé être. J'avais écrit trois scénarios pour un potentiel premier film. Donc il y a des thématiques semblables, et je suis pas stupide, quand on fait un premier film, il n'y a pas de blé. Donc souvent c'est un lieu, souvent on est enfermé, il y a peu de comédiens, tout ça c'est un peu. Voilà. Et du coup, il se trouve que j'ai eu la chance, après Hostile, d'enchaîner avec Méandre. Donc. Bon, on l'a fait, et on a bien fait, je crois, puisque du coup, en fait, tout ça, on est à Gueule Noire, et c'est une histoire différente en termes de claustrophobie, c'est particulier. Je voulais pas faire encore Méandre, c'est-à-dire qu'il y a des lieux beaucoup plus exigus sur place qu'on n'a pas utilisé. L'idée, c'était de jouer avec l'obscurité, pour créer la claustrophobie, comme peut le faire un film comme The Descent, par exemple, qui joue avec ça. Donc voilà, c'est des thèmes, on va dire, récurrents, mais effectivement, c'est pas forcément je suis conscient de ce que j'ai fait, mais c'est pas conscient à 100%. Et en même temps, je dis ça, mais un de mes prochains projets, c'est pas un huis clos, c'est pas un huis clos physique, mais il y a un huis clos un peu mental. Donc, je pense qu'il y a un problème. Il faut vraiment que j'en parle.
Ok. Bah, comme on parlait de thème, justement, j'avais une petite question sur le lien que tu entretiens toi avec les films un peu de genre, du coup.
Alors, c'est très simple. J'ai vu The Thing de Carpenter quand j'avais 6 ans. Ouais. Caché derrière un canapé.
Traumatisé.
J'ai été trauma complet. Du coup, comme j'ai été traumatisé, j'ai enchaîné avant mes 10 ans avec Alien, Predator, Terminator, histoire de bien aller au bout du délire. Ne faites pas ça, sinon vos enfants feront des films de genre. Du coup, non, ça a été un vrai. Je me souviens très très bien de quelques scènes de The Thing et le fait de comprendre à 6 ans, ce qui est quand même particulier, que en fait, à partir de ce moment-là, je faisais plus de cauchemars. Pour moi, les cauchemars, j'en avais vu un vrai. Donc c'est pas, ça fait pas peur, c'est dans une télé, c'est assez malléable. Et en fait, j'ai eu vraiment une envie de découvrir d'autres films comme ça. Et j'avais un oncle qui était complètement fou, qui me faisait voir tous les films d'horreur. Il avait toutes les VHS de ces films-là. Et dès que mes parents partaient, il me disait, tu veux voir un film encore plus fou? Et hop, il mettait les films comme ça. J'ai découvert La Mouche comme ça aussi. Enfin voilà, des films qui m'ont. Mais ça m'a pas traumatisé, ça m'a pas choqué. J'adore les animaux. J'ai jamais fait de violence à personne. Non, c'est plus sérieusement, j'ai très vite. Enfant, analyser le truc comme c'est génial parce que bah en fait je vois des choses qui n'existent pas mais qui me font peur et en même temps j'ai envie. C'est le principe même de regarder sous le lit. C'est-à-dire qu'on se dit ce qu'il y a un monstre, bah techniquement mec s'il y a un monstre tu regardes pas en fait. Et pourtant il y a cette envie de dire je vais voir pour être sûr quand même qu'il n'y ait pas un monstre et comme ça j'aurai plus peur. Ce qui est débile parce qu'une fois que tu remontes sur le lit il peut peut-être apparaître, on n'en sait rien. Du coup tu passes ta nuit à regarder sous le lit, c'est ridicule. Mais voilà, ce principe-là me fascine moi personnellement, cette espèce de paradoxe sur la peur. Et il y a d'ailleurs une scène un peu là-dessus dans le film, sans spoiler, mais voilà, qui joue avec ça. Ouais.
Donc bah, moi c'était justement pour parler un petit peu de toutes ces inspirations, mais tu viens déjà de nous en décliner pas mal. C'est vrai qu'on retrouve The Descent ou Catacombe, en tout cas sur ce côté enfermé, claustro. C'est quoi tes inspirations? C'est jeux vidéo, littérature, cinéma? T'essayes de tout mixer?
Je mixe tout sans le vouloir. Comme je l'ai dit là sur ce film-là... Il y avait Lovecraft à la base, moi je suis un vrai fan de Lovecraft, que ce soit Les Montagnes Hallucinées, Dans l'Abîme du Temps, puis j'ai découvert des choses aussi qu'il avait écrites moins connues il y a quelques années. Après, tous les films des années 80 dont j'ai parlé, généralement d'horreur, et ce qui était fantastique, c'est que c'est souvent ces films d'horreur fantastique. Et je trouve ça fascinant, on en voit peu aujourd'hui de cette façon là mais moi j'adorais ça. Voilà, c'est une cinéphilie qui m'a forgé totalement. Et après les inspirations plus larges, oui effectivement le jeu vidéo, moi je suis un gros gamer. Là ça se voit pas mais c'est le tatouage de The Last of Us partout que j'ai fait alors que le teaser était sorti, donc il fallait que le jeu soit bien parce que sinon j'étais un peu en galère. C'est comme les mamans qui ont appelé leur fille Khaleesi ou Daenerys et qui après disent merde elle tue des gens en fait, c'est chiant. Donc voilà, non, je suis un gros gamer et effectivement le jeu vidéo d'horreur par exemple a une palette énorme. Il y a des jeux très indés et des gros blockbusters, ça va d'un jeu comme The Forest à Dead Space. Voilà, où en fait on a toute cette. Et puis ensuite, on arrive dans une phase en plus où le jeu vidéo commence à être bien adapté. Pourquoi ? Parce qu'il est fait et produit par des gens qui jouent, contrairement à tout ce qui a été fait depuis 20 ans. Donc voilà, c'est forcément aussi des grosses inspirations, ouais, le jeu vidéo.
Et sans spoiler, parce qu'on est ici pour parler de Gueule Noire, je crois que le prochain projet, c'est une adaptation, non ?
Non, il y en a un, je peux en parler parce qu'il a été annoncé, c'est l'adaptation de A Plague Tale, le jeu vidéo médiéval avec des rats. Voilà, c'est en série, c'est long parce que je travaille dessus depuis longtemps et qu'on a encore un gros bout de chemin, mais c'est en très bonne voie et ce sera en français. Et l'idée, c'est de respecter l'univers du jeu, d'être très ambitieux. Donc forcément, tout ça, ça prend du temps. Et voilà. Et je travaille secrètement, ça c'est une exclue, mais je dirais pas quoi, sur une autre adaptation de jeu vidéo. Mais ça, c'est un film américain. Et ça va être annoncé normalement début d'année prochaine. Mais voilà, oui, j'ai beaucoup de chance que ma passion se mélange avec mes projets-là.
Ah, une question un peu différente pour le coup. Il y a un lien depuis longtemps entre le film de genre et le film social, notamment en France. Est-ce que c'était ton intention vraiment de t'inscrire dans cette dynamique-là ?
Alors pas du tout. Mais c'est ça qui. Non mais vraiment parce que je sais qu'il y a des même c'est des copains. Hein, c'est l'inverse. Ils disent j'ai envie de parler d'un truc social puis je vais mettre du genre comme ça parce que j'aime aussi les films de genre. Mais c'est d'abord des films sociaux au départ. Moi en fait la seule raison qui fait qu'il y a du social dans le film entre guillemets c'est ce qui s'est passé à l'époque. C'est qu'en fait quand je me suis renseigné sur les mineurs de fond. Je me suis rendu compte au-delà du fait que bien sûr on était sur un milieu ouvrier et que ça soulevait plein de thématiques. Sauf que de base un groupe d'ouvriers qui rencontre une bestiole, bah c'est Alien. par exemple. Hein, c'est quand même c'est quand même des ouvriers de l'espace, nos amis. Donc, et en fait, après, je cherchais à faire un film aussi d'aventure. D'aventures horrifiques comme le sont les bouquins de Lovecraft ou comme peut-être La Momie, enfin voilà, tout ce genre de trucs là sans l'humour, mais du coup je cherchais un moyen en fait de faire rentrer spectateurs un peu de façon un peu logique, de dire voilà, quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi j'y connaissais rien aux mines avant d'étudier sur ce film là et donc très vite je me suis dit, mais en fait en me renseignant, j'ai dit ah oui, la vague d'immigration qui venait à ce moment-là dans les années 50 d'Afrique du Nord, après la vague polonaise, italienne, etc., ça me peut me permettre d'avoir vraiment un appel de l'aventure, quitter son pays, traverser une frontière, tout ça c'est des logiques de scénario que je trouvais passionnantes, et d'avoir un personnage qui, juste par son envie et son courage, se retrouve dans un groupe qui n'a rien à voir avec ce qu'il connaît. Et en fait tout, la logique aussi du Maroc avec son côté très lumineux pour arriver dans le Nord qui est un peu moins lumineux bizarrement, enfin voilà, tout ça c'était pour moi très logique. Donc ça part pas d'une idée de dire on va foutre un peu de social parce qu'en France c'est cool comme ça, les critiques elles disent que en fait bah ouais, ça raconte aussi un peu l'histoire. C'était vraiment sincère. Après que ça se retrouve dedans, que ce soit assumé, traité, et que j'ai fait beaucoup de recherches pour ça, oui, mais ça part vraiment d'une envie de faire un film de genre tout en respectant l'univers dans lequel je me permets de raconter cette histoire. Ouais.
Je me tourne vers vous, Nicolas. Vous êtes le fondateur d'Alba Film.
Co-fondateur
avec votre compagne Delphine. On la salue d'ailleurs. Vous défendez depuis la création d'Alba avec ferveur le film de genre français. C'est d'ailleurs votre seconde, on le rappelle, votre seconde collaboration avec Mathieu Thury après Méandre en 2021. J'ai l'impression, hein, vous me dites si je me trompais, mais dans la manière dont vous mettez en avant le film depuis plusieurs mois, dans la manière dont vous le défendez dans les différents congrès, c'est peut-être le projet qui vous tient le plus à cœur, sur lequel vous avez travaillé, le projet que vous avez eu le plus envie de mettre en avant. C'est dur d'en sortir un comme ça, mais il y a quelque chose qui a l'air d'être très, très important sur ce film pour vous.
Oui, c'est bien résumé. En tout cas, c'est vrai que dans l'ADN d'Alba, il y avait du film de genre depuis le début, étranger et français. On avait l'ambition, il faut se souvenir qu'Alba c'est 2019, donc c'est juste avant le Covid. Et c'est vrai que depuis le Covid, il s'est passé beaucoup de choses pendant et après, et on est encore dans ces conséquences-là. Mais c'est vrai que j'avais ce rêve un peu que le genre français, pour toutes les raisons un peu qu'a raconté Mathieu, c'est vrai que moi c'est marrant, on n'est pas la même génération. Et quand on dit souvent que le cinéma rassemble tout le monde, c'est vrai. On a eu les mêmes passions en fait, de jeux vidéo. Moi je suis un gros gamer, j'ai eu les premières consoles, il était tout petit, Mathieu.
Ça je suis toujours bim, petit, hein, mais bon, c'est pas.
Oui, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Mais j'ai eu vraiment des consoles de jeux très primaires, on va dire, pour ceux qui s'en souviennent.
Et le après. PO7 70.
Ouais, notamment, ouais. Ah, ouais. L'Amiga, Atari, tu sais, puis le même, le truc, là, le ping, là, oh la vache. Et ça, le pire, c'est que ça nous éclatait, alors qu'il y avait deux traits quand même, hein, les gars. Deux traits, un pixel, et on trouvait ça génial. Ouais. Mais des années plus tard, il y avait des scénarios et effectivement, la passion du jeu vidéo, parce qu'on retrouvait des scénarios d'aventure qu'on n'avait pas forcément au cinéma. On aimait les films américains parce qu'on les avait pas en France. Et quand on a commencé à avoir des films français, mais trop rarement, qui nous faisaient rêver, on s'est dit merde, pourquoi, alors qu'on a tous les talents qu'on sait en France, on n'arrive pas à les faire. Bon, maintenant que je suis dedans depuis longtemps, je comprends un peu mieux pourquoi on n'arrive pas à les faire. Mais on a, avec Delphine et l'équipe Alba, on a quand même essayé d'en faire et vous connaissez voilà les quelques films français qu'on a fait. Avec Mathieu, c'est vrai que c'était particulier parce qu'on a fait Méandre, donc c'est une rencontre déjà humaine, artistique. On s'est retrouvé sur beaucoup de choses, sur notre passion commune en fait, sur au-delà du cinéma. Et c'est vrai que le projet Gueule Noire, quand il me l'a raconté, moi je suis devenu dingue parce que pour toutes les raisons qu'il a évoquées, ça mixait tellement de choses. Parce que encore une fois, le fait de dire je fais pas de social, mais il y a quand même du fond, c'est important. Tu l'as raconté, je crois, dans une des rencontres qu'on a fait. Si c'est ancré dans les années 50, c'est pas pour rien. Si c'est ancré dans une réalité historique, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour justifier une créature qui va peut-être faire des choses. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. En fait, tu prends le temps dans ce film de raconter une histoire. Et souvent, ce qu'on reproche aux films de genre, même ceux qu'on a aimés dans les années 80, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Ça défouraille à tour de bras, il y a du sang, il y a même un côté ridicule, etc., etc. Et donc, ce que j'aime dans Gueule Noire, c'est qu'on raconte une véritable histoire, il y a des vrais personnages incarnés, et que ça mixe beaucoup de choses dans un équilibre que chacun jugera. Moi, je le trouve étonnant, hyper ambitieux. Honnêtement, en France, je pense qu'on a rarement vu ça. Donc, c'est vrai que pour te répondre, on y a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'on pense que ce film-là mérite quelque chose de plus, peut-être. Après, on défend tous nos films, hein, tu le sais, on défend tous nos films. Mais c'est vrai que Gueule Noire, il incarne peut-être une tentative encore plus forte d'arriver à faire des films de genre de qualité et qui marche, parce qu'on a besoin qu'ils marchent aussi pour en faire d'autres, c'est ça le sujet.
Il le vend bien, moi je vais aller le voir. Hein.
Nicolas, tu l'as dit, du coup, le film se passe dans les années 50, justement. Ouais. Est-ce que ça a été un défi particulier d'aller chercher un public jeune, qui est le public de base du film de genre, sur justement un film qui se passe dans le monde minier et qui se passe dans les années 50?
Alors, tu mets le doigt sur la difficulté, effectivement, qu'on avait. C'est vrai qu'au-delà du côté passionné, passionnant de la proposition de Mathieu, pour le vendre, c'était une autre paire de manches. Donc, il fallait pour ça tout un tas de choses, que le film soit réussi, il l'est, un casting. Mais le casting qui a réussi à réunir Mathieu, il est très particulier. Parce que c'est vrai que, quand tu le dis, les films de genre, souvent, c'est une cible plutôt jeune. Et là, on a un casting qui n'est pas tout à fait en adéquation avec ça, notamment avec Samuel Le Bihan ou Tareton ou Jean Ganglade. Donc il fallait réussir à faire un mix, en fait une double stratégie, c'est ce qu'on a essayé de faire. Moi j'ai l'impression qu'avec les premières projections qu'on a fait depuis le début, enfin il faut quand même raconter qu'à Angoulême, on propose ce film à Angoulême et déjà Dominique Besnard et Marie-France Brière prennent le film. Déjà première surprise agréable. On s'était dit bon, on tente le coup honnêtement, mais s'ils nous avaient dit non, on pouvait difficilement leur en vouloir. Mais ils ont pris ce risque et je les en remercie. Franchement, c'est un cadeau qu'ils nous ont fait parce que sans aucune promo à Angoulême, on est quand même en août, on a fait 5 salles complètes, 600 personnes. Et vous connaissez Angoulême, il y a 50 films proposés, pas vraiment gueule noire. Et non, on était sidérés. Et dans la composition de ce public-là, il y avait bien sûr des gamers, des fans de Mathieu, des fans de films de genre, mais il y avait aussi ce que j'appelle les cheveux blancs, Madame Michu de La Roche-sur-Yon. Bon, en l'occurrence, Madame Michu de.
Public Alex Hugo.
Absolument, absolument.
Ce qu'a dit Samuel.
Ce qu'a dit Samuel, mais il a raison. Et ce qui est fou, c'est que ces gens-là, bien que surpris, pensant peut-être venir voir Germinal en partie, ils se sont pris autre chose, plutôt The Descent ou Alien dans la deuxième partie, on va dire, mais ils ont kiffé, ils ont aimé ce film. Et nous, on était sur le cul, parce que effectivement, c'est quelque chose qu'on avait en tête, mais qu'on voilà, on espérait, on n'était pas sûr. Du coup, on a appuyé notre stratégie aussi grâce à ça, en la faisant double, vous l'avez vu, une affiche assez fédératrice, une bande-annonce qui ne ment pas sur la nature du film, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un film de genre, mais pas que. Et c'est ce « mais pas que » qu'on a essayé de mettre en exergue en permanence dans nos éléments promotionnels, en espérant que ça marche. Mais vous le savez, premier défi pour un distributeur, choper sa cible principale. Déjà, si tu arrives à faire ça, c'est cool. Mais choper ta deuxième cible, c'est encore plus cool.
C'est le Graal.
Et c'est le Graal, donc on espère, et c'est marrant, à Bercy tout à l'heure, j'espère que ce sera la même chose à La Défense, mais à Bercy, il y avait un mélange dans le public.
Non, c'était le mélange parfait. Mais en fait, le film ne ment pas. C'est-à-dire que le film est vraiment. C'est pour ça que ça marche sur cette cible-là, secondaire, on va appeler ça comme ça, mais parce qu'en fait, le film prend le temps de développer ses persos et le bassin minier et de montrer. On apprend des choses sur les mineurs, et ça, c'est vraiment été une vraie démarche. Dès l'écriture, mais surtout ensuite de bien au tournage et au montage, de garder précieusement ça, c'est-à-dire qu'on développe des personnages pendant un long moment, on développe le milieu de la mine, et j'ai eu cette remarque plusieurs fois de gens qui ont dit « Ah non, mais moi, je venais pas pour ça, hein. Mais finalement, j'ai bien aimé, parce qu'en fait, j'ai appris des trucs, et en même temps, j'avais une empathie totale pour ce groupe, chose qu'on peut pas faire si au bout de 5 minutes, ça commence à défourailler, on fait du body count, ça marche, il y a plein de films où ça marche, mais c'est pas du tout le sujet, et moi, je voulais retrouver ce côté qui se faisait plus d'ailleurs dans les années 80. Je suis pas toujours d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure sur les histoires, mais
pas tous.
Non, pas tous. Mais les grands films, comme je reprends souvent l'exemple de L'Exorciste, que j'ai revu il y a pas très longtemps, que j'ai vu à peu près 40 fois, mais c'est hallucinant. L'Exorciste, il arrive au bout de 80 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde pense à ces 20 dernières minutes, mais en fait, il se passe énormément de choses à construire des personnages. Alors oui, il y a des petits trucs un peu fun. Il y a un lit qui bouge, ouah, super. Mais il y a d'abord des personnages et on a une empathie totale. Et moi, pour moi, personnellement, toute la fin me bouleverse parce que et je voulais retrouver ça, en fait, de vraiment construire. Et c'est pour ça que je pense que ce public-là se dit, on s'est pas foutu de ma gueule. Je pense sincèrement qu'il se dit, je suis surpris, mais on s'est pas foutu de ma gueule, parce que j'ai quand même ce dont j'étais, pourquoi j'étais venu. Cette phrase n'est pas française, mais vous avez compris, contrairement à voilà.
Non, mais je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que ce double défi de choper ce public très différent, il est très séduisant, très excitant. Voilà, on verra mercredi et dans les jours qui viennent si on a réussi. Mais on a essayé vraiment d'être en cohérence avec ça, et encore une fois avec ce casting, ça aurait été, et le titre du film, ça s'appelle Gueule Noire. Donc t'as un film qui s'appelle Gueule Noire dans les années 50 en costume, et avec ce casting-là, il aurait été fou de pas essayer au moins d'aller chercher un public un peu différent, un peu plus large que le film de genre, on va dire, classique.
On quitte les bassins miniers pendant 5 minutes, et on va traverser l'Atlantique et on va parler avec Julien du box-office US et du box-office worldwide également.
Allez, c'est parti. Alors juste, petite anecdote, dans Superman, le premier, parce qu'on va parler de Marvels évidemment, mais le premier Superman avec Christopher Reeve, il arrive en Superman au bout d'une heure et demie.
Voilà.
Et on s'en souvient et on l'adore. Voilà. Alors, le box-office US, c'est parti. Donc, cette semaine, évidemment, il y avait la sortie de The Marvels. Le box-office US, il a fait 85 millions. La semaine dernière, c'était 62 millions. Donc, il y a eu une progression de 36%, mais apparemment pas suffisante, puisque The Marvels démarre avec le plus mauvais score pour un film. Je répète beaucoup Marvel, hein, mais pour un film Marvel, donc dans la Cinematic Universe, avec 47 millions de dollars de recettes. C'est 15% de moins que le plus mauvais chiffre, c'était Hulk. L'incroyable Hulk avait fait 55 millions. C'est moins 34% par rapport aux Eternals qui étaient sortis en 2021. Quoi d'autre ? On avait Captain Marvel, lui, qui avait ouvert à 153 millions. Donc là, il se pose carrément même la question, est-ce que le film va dépasser les 153 millions en fin de vie ? Pour vous dire, pour vous positionner un petit peu le film. Au niveau worldwide, il est à 110 millions. Quand Captain Marvel, il avait démarré à 455 millions. Donc, voilà, on l'attendait un petit peu plus haut. La Chine, il a fait 11 millions. C'est loin, loin des scores habituels. Normalement, ça se situe autour de 80-90 millions pour un film MCU. Et il doit être, j'avais noté, en tout cas, on reverra tout à l'heure sur la France, mais il doit pas être loin d'un Flash. Si on part, et Flash, voilà, il était parti à 55 millions. Et Black Adam, il était à 67 millions. Et Blue Beetle, eh ben, tu regarderas toi-même. Mais je l'ai pour la France.
En deuxième position, je crois qu'on a un autre film qui est sorti cette semaine en France.
Un autre film, attends, parce qu'en deuxième position, j'avais quoi ? J'avais Five Nights, toujours. Voilà,
exactement.
Ah oui, qui était sorti cette semaine, pardon, ouais. J'étais perdu parce que ça fait trois semaines qu'il est sorti, on en parlait justement avec Mathieu, ça fait trois semaines qu'il était sorti aux États-Unis. Il avait fait un démarrage canon, il avait perdu 72%, et là il a fait 9 millions. Donc, il est à 127 millions au total, il est à 251 millions worldwide, c'est juste un chiffre énorme. Il va devenir sûrement le premier film de genre de l'année, puisque La Nonne, si je ne me trompe pas, il est à 265 millions. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Personne ne l'aurait mis en top position des films de genre sur l'année 2023. On continue. On avait quoi ? On avait toujours un petit film chinois.
Toujours, toujours présent.
Toujours là, toujours en troisième position. Son week-end, il est à 11 millions. Ça lui fait un cumul worldwide de 50 millions.
Alors, c'est La Suspecte, ça n'a pas dit le nom.
Ah, La Suspecte. Ensuite, on a un film indien. Tiger ouais. 3.
Ça, c'est moins fréquent pour le coup.
Et ça, on a moins l'habitude de le voir. Et il a ouvert à 11 millions également, 11 500 000.
Et alors, contrairement aux films chinois, les films indiens, on les voit souvent en France. Celui-là, il y a des chances qu'on le voit en France. Il y a beaucoup de distributeurs en France qui savent très bien travailler les films indiens et qui font des super séances et des super chiffres. On se rappelle des chiffres de Léo récemment en France qui a fait quasiment 50 000 entrées. Donc voilà, Tiger 3, il y a de grandes chances qu'on le voit.
Et Max me souffle à l'oreille qu'il a été daté aujourd'hui par quel distributeur ?
Alors, je ne sais pas par qui et je ne sais pas pour quand, mais il a été daté.
Merci pour l'info, ça c'est vraiment c'est de la précision.
Wow. De la demi-info par Max.
Donc on continue, on a Killer of the Flower Moon, toujours lui qui tient la route. Alors c'est toujours, on posait la question, est-ce que c'est un bon résultat, un mauvais résultat sur Killer of the Flower Moon ? En tout cas, au Worldwide, il a 137 millions. C'est vrai qu'on avait regardé les Scorsese ou même les DiCaprio, généralement le minimum c'est 300 millions de dollars de recettes. Donc je vous laisse juger après la durée du film, la complexité, le sujet, voilà. Taylor Swift, toujours là, elle est même en, je crois, 11 ou 13e position sur l'année. Donc c'est pour dire, c'est vrai que les Américains le voient comme la nouvelle alternative sur les nouvelles propositions à mettre en place quand justement ça manque un petit peu de blockbuster qui va sûrement se passer en 2024 justement avec la grève des acteurs et le recul, le changement de date pour beaucoup, beaucoup de blockbusters. Et puis il y a Priscilla qui était intéressant puisque lui il a augmenté sa capacité de sortie, il a doublé son nombre de copies, il a perdu que moins 5% et il se retrouve sur un cumul à 12 millions de dollars de recettes
en étant sorti qu'aux États-Unis pour l'instant.
Exactement.
Ce qui est d'autant plus remarquable.
Et on a fait le tour sur le box-office US. Disney toujours en tête dans le top des distributeurs et Universal toujours second. Max voulait que je parle du le garçon et le héron, lui qui cumule à 89 millions de dollars de recettes et qui cartonne toujours, et on verra qu'il cartonne encore plus en France.
Alors on parlait dans ce box-office US et international de certains films avec des super castings, évidemment Killer of the Flower Moon. Alors toute comparaison gardée, on a quand même un très 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 beau casting hein, dans Gueule Noire.
Leonardo DiCaprio.
Bien sûr.
puisque voilà, tu vas un peu plus t'en parler, Mathieu, mais on retrouve notamment Samuel Le Bihan. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comment toi, dans ta préparation, tu as composé ce collectif d'acteurs. Justement, est-ce que tu es parti sur les individualités ou plutôt sur le collectif? Qu'est-ce qui t'a intéressé de travailler là-dessus?
Alors, un mix des deux. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, premièrement, j'écris rarement en pensant à quelqu'un, mais là, je pensais vraiment à Samuel. Donc je me suis dit, on va lui proposer, et puis s'il dit non, tant pis, et puis il a dit oui, donc ça c'était cool. Ensuite j'ai eu la chance d'avoir que des premiers choix, c'est-à-dire que tous les comédiens que j'ai dans le film, c'est ceux qui étaient en haut de la liste pour chaque rôle, donc ça c'est vraiment cool. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai un mélange d'une vieille garde, on va appeler ça comme ça, des gueules qu'on connaît, comme Samuel Le Bihan, Jean-Hugues Anglade, Philippe Torreton, des gens qu'on a déjà vus, des gens qui sonnent années 90-2000, dans des rôles assez iconiques, chacun. Et je les confronte à une génération un peu plus montante, et que ce soit Mireille Kassem, Thomas Oliveres, Bruno Sanchez, Diego Martin, Marc Rizzo, tout cette espèce de génération, ils ont déjà fait leur preuve aussi, hein, mais qui sont en train, voilà, qui sont pas au même niveau, qui sont en train de monter. Et c'est un peu aussi l'histoire du film. C'est la première fois que je fais ça, c'est un film de groupe. Et moi, j'ai toujours pensé qu'un film de groupe, ce qui était important, et j'ai pu le voir là, hein, c'est que même si on prend les meilleurs comédiens qu'on pense avoir besoin pour le rôle, il faut qu'ils marchent ensemble. Donc j'ai vraiment attendu la première lecture avant de vraiment valider mon casting. Et c'est à la première lecture où d'ailleurs, j'ai changé des choses. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, entre Marc Rizzo et Thomas Oliveres, qui se connaissaient peu, pourtant il y avait une espèce de pas de rivalité, mais d'espèce, ils jouaient énormément, ils se lançaient des vannes, etc., en dehors de la lecture, mais pendant la lecture aussi. Et en fait, du coup, j'ai tout enregistré, tout noté, j'ai rajouté notamment une scène qui est dans le film, voilà, des petits rapports d'autorité un peu plus marqués à certains endroits, voilà, tout ça, ça m'a permis déjà de continuer à travailler. Et ensuite, c'est des comédiens qui ont, c'est hallucinant, parce qu'ils sont ils sont 7 sous terre, et ils ont tous une façon de travailler différente, les 7, c'est pas 3 et 4, ou quoi, dans les 7. Donc c'est assez, la première semaine, c'est compliqué de dire, ok, lui, il est comme ça, lui, à la première prise, il se rôde, lui, par contre, c'est les premières prises qui sont les bonnes, lui, il aime bien bosser de cette façon-là. Et en fait, bon, ça après c'est le job, hein, mais on se rend vite compte de comment manier un petit peu tout ça. Et après, bon, il y a une cohésion de groupe qui s'est faite et qu'on a essayé de créer nous artificiellement au début, mais qui en fait s'est fait très naturellement, puisque quand on est à 7 enfermé dans un lieu comme ça, je pense que c'est vite fait de se dire, bon, si je suis pas copain avec lui, ça va être long là, les semaines de tournage. Donc voilà, il s'est passé une vraie cohésion de groupe et c'est vraiment ce que j'espérais pour le film. Je pense que ça se sent à l'écran.
Ouais. Et ça se ressent carrément, cette cohésion. Et alors justement, on est bloqué à 1000 mètres en dessous du sol. Est-ce qu'il y a eu des acteurs qui ont eu du mal à respirer, qui se sentaient un petit peu comme piégés? Est-ce que c'est pas trop compliqué de les immerger comme ça dans des conditions de tournage? Je crois que c'était un peu dantesque par moment, non?
Ouais, alors ce qui était compliqué, c'est qu'on va dire qu'il y a une grosse partie du film, peut-être 70%, qui se sont tournés dans un même décor. Alors c'est que décor réel, il n'y a pas de fond vert dans le film, c'est que des vrais lieux. Et donc ce décor d'une mine de calcaire qu'on aperçoit dans la bande-annonce, qui est notre lieu principal, c'est 5 km de galerie, 85% d'humidité, 13 degrés en permanence, noir complet, il n'y a pas d'élec, il n'y a rien, pas de réseau, pas d'Instagram entre les prises, les gars. Pas de talkie, donc compliqué pour une équipe aussi de travailler là-dedans. Ouais. Et en fait, on les a fait venir un peu avant le tournage en disant, voilà les gars, on va aller là-dedans. Et ça va être ça notre terrain de jeu pendant tout ce temps-là, dans le noir complet, parce que tu arrives le matin, il fait nuit, tu sors le soir, il fait nuit. On tourne l'hiver, bravo. Et quand on mange le midi, on est à l'entrée, il fait très sombre. Donc voilà, c'est pas cool.
Ils t'aiment bien, quoi. Ils sont prêts à repartir pour le prochain
ouais,
film.
Voilà, ils m'ont dit le prochain, aux Maldives, si c'est possible. On prend Tahiti, ça passe, mais voilà. Ouais, c'était sport comme film, ouais.
Et quand on à la vision du film, si on ne connaît pas un peu les conditions de tournage, on peut s'imaginer que c'est un film qui a été fait pour 10 millions d'euros. Or, on le sait, ce n'est pas du tout le cas. On est sur un budget inférieur à 5 millions d'euros. Comment toi, en tant que metteur en scène, tu fais pour faire l'illusion que c'est un film à gros budget? Est-ce que tu as des astuces de mise en scène, des choses comme ça?
C'est mon troisième film avec mes producteurs. Donc, on a deux autres films pour se roder, en fait. Et à chaque fois... ils tiennent, et c'est vrai, ça, c'est quelque chose qui est vrai, à mettre l'argent à l'image, c'est-à-dire que de se battre pour des décors, par exemple, qui sont assez incroyables, des chefs de poste qui se donnent à 100%. L'idée, c'est toujours la même, c'est en fait comment on dépense cet argent. Ça, c'est un travail de production, donc j'en fais partie, mais c'est un peu moins mon job, mais d'essayer de dire, voilà, on pourrait très bien faire le même. En fait, c'est un film qui a coûté même moins de 4, pas moins de 5, enfin, ça reste moins de 5, mais c'est moins de 4. Voilà, donc,
c'est important de préciser parce qu'à cette échelle-là, en fait, chaque 100 000 euros peut faire la différence. Donc c'est important de préciser qu'en fait, entre 3,5 et 5 millions d'euros, c'est déjà un gap énorme sur ce genre de production.
Ah bah c'est sûr que sinon on fait la première semaine cata de The Marvels, on est très 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 content. Donc on n'a pas les mêmes objectifs, on va dire. Non, c'est sûr. Mais du coup, ça n'empêche pas d'essayer de trouver des solutions pour essayer de mettre de la production value, vraiment de tout mettre à l'image. C'est un truc, voilà, c'est tout bête, hein, ça se joue sur aller trouver les bons décors. Mais du coup tous les chefs de poste sont en mode comment on peut faire pour renier parce qu'on est vraiment galère d'argent mais on a envie de faire bien et donc tout le monde se bat et en fait ouais pareil ça se voit à l'image et c'est notre troisième film donc on commence à être rodé
et j'ai presque envie de dire le challenge il est encore plus important sur un film français parce qu'on compare toujours les films de genre avec les films américains comme tu le dis nos références c'est les films des années 80 ou en tout cas on a grandi là-dedans et il y en a eu de plus en plus dans les années à venir donc forcément c'est vrai que c'est important qu'on y croit, quoi, qu'on se dise qu'il n'y ait même pas besoin de donner une nationalité au film.
En fait, ça part d'un truc tout bête. Je pense qu'en plus, ça joue aujourd'hui avec les plateformes, cette espèce d'éducation du public à un certain niveau. Même quand les films sont pourris, un film américain, il est propre, il est bien, c'est propre, il y a un bon son, il y a un certain niveau technique et un point de vue parce qu'en fait, on va chercher, ils sont bons en tout. Et des fois le scénar peut être pourri, ça c'est toujours dur de trouver un bon scénario, c'est le travail le plus dur en fait. Mais en fait, même dans un film, on se dit bon, j'ai passé un moment acceptable, c'était pas ouf, mais ça. Pourquoi on a dit Marvel par exemple fait de très bons films et de très mauvais, mais jusqu'à récemment ils marchaient tous. Parce qu'en fait, on sait que quand on y va et qu'on va payer 6, 10, 15 balles, je fais exprès de prendre un spectre large pour pas qu'il y ait de débat sur le prix de la salle de... c'est juste que du coup, on sait qu'on en a entre guillemets pour son argent. Ça veut dire que si je vais faire Space Mountain, en fait je sais que je vais avoir une sensation. Peut-être que ce sera pas ce que j'attendais, mais en tout cas j'en aurai un minimum. Et en fait je pense que c'est important quand on fait un film de dire voilà, on se fout pas de la gueule du spectateur parce qu'il paye le même prix pour un film à 200 millions ou un film à 4.
On est d'accord.
Je peux rajouter un truc, il ne peut pas le dire, mais il a quand même beaucoup de talent. C'est aussi une façon de répondre à ta question. Il a de l'expérience, bien sûr, c'est pas son premier film, Mathieu, mais il faut quand même beaucoup de talent. Quel que soit le budget de ton film, et encore plus quand effectivement le budget est réduit pour ce type de film, je trouve pour réussir ça. Après, il a la chance, t'as des super anecdotes, je sais pas si on n'aura pas le temps de les raconter, mais t'as des anecdotes de dingue. Parce que quand un film se fait, il y a aussi de la magie, il y a la difficulté de la raconter. Les conditions n'étaient pas rigolotes, même si on sauve pas des vies, on est d'accord, mais c'était dur. Mais t'as eu des moments magiques qui font que quand le film doit se faire, il se fait. Et ce qui donne des très très belles scènes dans ton film, on peut pas tout raconter là maintenant, mais il y a des scènes magiques. Parce que il a eu ce moment-là, il a su créer ce moment-là, cette alchimie qui fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent, mais la scène elle est maintenant et elle est réussie. Et ça c'est top.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, c'est la différence, elle est toujours dans comment l'obtenir. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec, par exemple, je dis un plan séquence qui en fait magiquement fonctionne au bout de la troisième prise. Sur un film où il y a plus d'argent, si ça n'avait pas marché, on découpe. Mais le public, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est juste un bon film. Nous, c'est vrai qu'après, comme tu disais, on a eu plein de moments magiques dans le film qui donnent des scènes. On se dit, ouais, comment ils ont fait ? On a eu un bol, mec. On a eu un bol de ouf sur cette scène. Parce que c'est passé au bon moment. Le point, il était bon. Et puis la prise d'avant, elle était pourrie. Mais celle d'après, on ne pouvait pas la faire. Et on a dit, c'est maintenant ou jamais. Le maintenant est venu. Voilà. Alors que sur un autre film, on se dit, on s'en fout. On a 30 prises. On s'en bat. Viens, on le fait. Voilà. Ça, c'est les moments magiques du cinéma. Et puis les moments qui ne marchent pas, personne ne le saura jamais non plus, donc ça c'est cool.
Donc on est à J-2, voire J-1 pour ceux qui vont nous écouter demain de la sortie du film. Je crois que vous avez participé à la clôture du Festival d'Arras.
Oui, absolument, ouais, c'était magique. On avait l'objectif de faire un événement dans le Nord, puisque évidemment, une partie du film a été tournée là-bas, ça s'appelle Gueule Noire, enfin tout était, on va dire, propice à faire un truc dans le Nord. Et en plus, Pictanovo, qui est une région qu'on salue au passage, extraordinaire, qui finance beaucoup de films du cinéma français, comme d'autres régions, mais particulièrement, ils sont particulièrement actifs, ils financent aussi les festivals de la région, notamment donc Arras. Donc on avait une place qui était vraiment, on va dire, cohérente, mais au-delà de ça, cette équipe du festival, elle est incroyable, de gentillesse, de professionnalisme, ils nous ont fait un accueil extraordinaire, ils nous ont dit, c'est pas compliqué. Gueule Noire, on va vous proposer le samedi soir, 11 novembre, dans la grande salle, pour ceux qui connaissent au casino, qui fait 900 places. Et là, on s'est dit, waouh, on la connaît, mais elle est magnifique, mais il faut la remplir. Et ils l'ont remplie, avec plus de 800 payants, et donc un public très varié, qui était vraiment, ça a été un moment magique pour Mathieu, qui ne la connaissait pas. Les gens sont restés, on a fait un débat de 45 minutes, je crois, à peu près.
Ouais, normalement, les gens, ils se barrent un peu pendant le Q&A. Une partie, ils se barrent, il était très tard, ils sont tous restés. Deux, trois qui sont partis, parce qu'ils m'aiment pas. Ils sont venus pour...
Et il en faut toujours deux, trois. Hein,
c'est incroyable parce qu'en fait, ce genre de projection, et d'autant plus que c'était encore une fois un public très large en termes d'âge, et c'était vraiment un moment de partage. Pour nous, c'était important en plus parce que un an jour pour jour, à cette date-là, on était en train de tourner dans le Nord et on disait ce serait cool de faire un truc dans le Nord quand même. Mais ce genre de truc qu'on dit. Voilà, sur Méandre, ce serait cool de faire une avant-première dans un tube. Et là, en fait, on se dit on aimerait bien le faire, mais en fait, c'est toujours compliqué. Et là, c'est vraiment un espèce d'alignement des planètes qui doit absolument continuer jusqu'à mercredi, s'il vous plaît, mais qui a fait que du coup, on a pu faire cette avant-première, aidé effectivement par Arras.
Et par les plus régions 30, il y a eu Arras, donc, qui était cette salle extraordinaire, plus 31, enfin, il y avait 30 salles au total dans le Nord qui ont fait cette avant-première, et on a filmé le débat, et donc il y a eu ce débat en direct dans 14 salles, grâce à la technologie d'aujourd'hui, on peut faire ça, c'est génial.
Ouais, c'est génial.
Donc 14 salles et
on a pu prendre les questions d'ailleurs.
On a pu prendre les questions de ces 14 des salles qui ont participé en live, et c'était c'était génial, franchement c'était top.
Ah, c'est incroyable, super.
En tout cas, ça donne du baume au cœur avant la sortie. Et puis d'autres choses qui donnent également du baume au cœur, c'est de prendre un peu de recul sur l'année pour le cinéma de genre en France, puisqu'on a eu Acide qui a été présenté au Festival de Cannes, bon, qui n'a pas forcément rencontré le succès escompté en salle, mais c'est quand même une marque importante, je trouve. On a Le Règne Animal, et on va en parler juste après, dans le box-office France, qui va, là, je pense aujourd'hui, dépasser le million d'entrées. Moi, je vous pose la question, messieurs, quel est l'état en 2023 du cinéma de genre français? Et j'ai même envie d'aller plus loin, quel est l'état du cinéma de genre français par rapport à Méandre il y a 2 ans?
Alors je vais répondre à la première question, je vais répondre à la deuxième. L'état du cinéma de genre français, il va mieux qu'il y a un temps, il faut qu'il continue à aller mieux. C'est surtout qu'en fait, il y a de plus en plus de films, ils sont très différents. Aussi en budget, parce que forcément c'est pas les mêmes, que ce soit Acide ou Le Règne Animal, on parle de budget à plus de 10 millions. Et ce qui est génial, c'est que moi je suis pour Le Règne Animal par exemple, déjà d'abord, qui est un excellent film, premièrement, c'est un succès de bouche à oreille. Et c'est ça qui est. C'est-à-dire que la première semaine, elle pouvait être même jugée comme presque décevante par rapport à. On est sur un bouche à oreille qui fait qu'il a eu plus de spectateurs en deuxième, puis en troisième. C'est quand même assez rare, à part certains films de Cameron et quelques gros phénomènes de comédie, c'est rare de voir ça. C'est pas à la même échelle, bien entendu. Mais enfin, quand même, on parle d'un film qui va passer, je pense, le 1,2 million. C'est assez.
En vrai, ça, la carrière du film devient complètement illisible.
Et puis, c'est un film qui assume ce qu'il est. C'est-à-dire que dans la bande-annonce, c'est mec, viens voir des mecs semi-animaux. C'est-à-dire que c'est pas un film qui s'est caché derrière ce qu'il était vraiment. Et je trouve ça totalement génial pour le film de genre, pour le cinéma en général, mais pour le film de genre. Et c'est un film qu'à mon avis, on verra au César aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il va ouvrir il va aller au bout de son idée. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, le film de genre, bah, quand on a sorti Méandre, il y avait déjà. Il y avait Le Dernier Voyage de Romain, il y avait La Nuée, il y avait Teddy, il y avait un peu après The Deep House des garçons Boussio Mori et copains. Ces films-là ont existé. Nous, on a continué à faire nos films, avec des deuxièmes ou troisièmes films qui arrivent aujourd'hui. Et en décembre, il y a Vermine, de Sébastien, un premier film. Donc en fait, il se passe un truc petit à petit. Voilà, moi, je dis toujours après, le truc, c'est qu'il y a. Voilà, on nous compare, on essaie de comparer le cinéma de genre encore avec beaucoup de choses. Si je compare avec la comédie, c'est une sulfateuse qui a 4 caisses de munitions. Nous, on est un sniper un peu mal réglé, un peu flou avec 2 balles. Et on nous demande de tirer sur les mêmes cibles et de faire le même score. C'est pas vraiment ça. Je pense que dans la quantité viendra la qualité. Et que si on a des très grandes comédies en France, parce qu'on a beaucoup de trucs bof, et qu'en fait, on a le haut du panier et en fait, faut pas oublier qu'on apprend à faire des films en faisant des films. Donc nous, l'idée, c'est de toujours essayer de s'améliorer, de comprendre, etc. Et ce qui est génial, c'est que le film de genre, bah, il est présent. Ce n'était pas une bulle il y a 2-3 ans, quand on sort Méandre, où on était beaucoup à revenir au genre. Il y avait bien entendu la vague des French Frayeurs, années 2000, qui ont donné des carrières de gens qui sont encore là aujourd'hui. Heureusement, nous, on a fait nos films, on continue à être là aussi. Et donc, en fait, chaque nouveau réal qui débarque avec un projet, chaque nouveau premier film, puis deuxième, parce que c'est toujours dur de passer au deuxième, en fait, ça lance des carrières de gens qui vont continuer à faire des films, et ainsi de suite. Et ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve la même année avec des films comme les nôtres à 3-4 millions, ce qui est déjà un peu plus que les 2 millions qu'on pouvait espérer atteindre il y a encore quelques années. Donc déjà, ça, c'est un premier signe. Et puis quand même, des films comme... En 2 mois, on a Acide et Le Règne Animal, qui sont des films à plus de 10 millions, plus de 12 même.
Je crois qu'Acide, il est à 10 et Le Règne, il est à 16.
Voilà, c'est beaucoup. Et c'est génial. Non mais c'est génial, c'est pas une critique, c'est génial. Après, je pense sincèrement qu'il manque, dans ce que je viens de dire, les films à 6-8, qui seraient assez pour être ambitieux et aussi pas trop pour pouvoir espérer faire des pas avoir besoin de faire 800 000 entrées pour être rentable. Voilà, c'est ce qui manque, et c'est les films les plus durs à financer pour des raisons évidentes. C'est pas des films de studio, et c'est des films avec les guichets actuels qu'on a avec le film de genre qui ne peuvent pas monter à ces niveaux-là. Mais c'est ce qui manque, je pense, pour avoir ce...
Presque, il faut recréer, quoi. Il faut créer ce public, ces films, comme tu dis. Et c'est vrai qu'il faut continuer, parce que de toute façon, il y a besoin. Ça prend, on sait que c'est long, surtout dans le cinéma. Et il faut pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait des nouveaux talents qui arrivent. Il faut qu'il y ait des gens comme toi qui continuent pour que le film de genre continue à exister.
Moi, ouais, maintenant, ce qui est vraiment génial, c'est que moi, j'adore le film. J'adore. Et en plus, j'ai la chance de maintenant connaître Christophe grâce à Samuel. Mais maintenant, on arrêtera de dire depuis le Pacte des Loups, il n'y a pas eu. Parce que maintenant, il y a le règne animal qui va finir. Alors, c'est pas les mêmes scores non plus. Mais enfin, quand même. De dire, il y en a un autre là, regardez, qui a marché. Donc maintenant, on y retourne. Et nos films existaient avant que ce film la marche. Donc en fait, là maintenant, il faut revoir, moi je vais en voir 10 dans 2 ans, des films de genre, ou 20. Et je pense que ce serait un bon ratio pour avoir des belles pépites.
Max, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ah non, moi je voulais faire le quiz.
Ah, le quiz !
Oh, il y a un quiz ?
Mais est-ce que vous avez le temps pour le petit quiz ou pas ?
C'est 3 questions, il faut répondre très vite.
Faut aller très vite, je crois.
Ok, alors...
Michel Blanc.
C'est parti, alors on enchaîne directement sur Monaco, avec le quiz.
Ok, on commence. Vous avez parlé du règne animal qui n'a pas encore passé le million. Killers of the Flower Moon, lui, par contre, a passé le million cette semaine, le million d'entrées. Et je vous demande à chacun, d'après vous, combien de films en 2023 ont passé le million d'entrées aujourd'hui ? Julien, tu réponds en dernier.
10.
Ouais, pareil, 10.
La copieur, ouais.
Le million d'entrées, 17.
Je dirais un tout petit peu moins, à la... 14.
Vous êtes loin, c'est 33.
Hein. Ouais, c'est 33, Julien, il garde le compte.
On n'a pas parlé de la nationalité, je suis désolé.
Non, mais additionné, ça fait 33. Je suis désolé.
On n'a pas dit la nationalité, tu raisonnais.
Ah oui, moi je parlais en fait. Ah oui, en plus, voilà. en plus, sincèrement, je pensais film français. Parce que c'est 10 les films français, non ? On n'est pas 1 ? Merci à mon avocat, Manouche.
Tu vois, on s'en sort.
Deuxième question, Max.
Deuxième question. Alors, on a vu la sortie de The Marvels, donc la suite des histoires de Captain Marvel. On va parler d'autres Captain, entre Captain Fantastic et Captain Super Sleep. Qui a fait le plus d'entrées au cumul ?
10.
C'était ça.
Captain Super Sleep.
Les autres, pas de réponse ?
Aucune idée.
Aucune idée.
Parce qu'il y a Sleep dedans.
Je sais plus, quoi, autour de 300-400 000 entrées, donc je vais dire Fantastic.
Ouais, c'est 500 pour Fantastic et 300 pour Captain Super Sleep, hein, qui avait été un petit échec.
Ah non, mais j'avais compris Docteur Sleep. Moi,
c'est ça. Mais qui a fait moins que Captain Fantastic.
Ouais, mais
aussi.
Pas Sleep, S-L-I-P. Docteur Sleep, tu le connais pas celui-là ?
Si, je le connais.
C'est bizarre que tu le connais.
Docteur Sleep, S-L-I-P ?
Oui.
Ah oui, non, lui, je le connais pas.
Ouais. Sinon, ça serait bizarre.
Ouais, ce serait chaud.
Et troisième et dernière question.
L'Abbé Pierre versus Lannon, qui fait le meilleur premier week-end ?
L'Abbé Pierre.
Oh non, La La Land, non ? Non.
L'Abbé Pierre versus La Nonne.
Ouais, mais La Lande, c'est cool, quoi.
Je dirais La Nonne.
La Nonne.
C'est bien La Nonne, qu'il s'agisse du vent ou du...
La Nonne.
Ouais, c'est bravo, Mathieu,
savais,
c'est bien La Nonne.
10.
Merci beaucoup, Max, pour ce petit quiz. Et merci beaucoup, messieurs, pour ces...
On a rien gagné.
...quelques minutes. Bah, vous avez gagné le plaisir d'avoir gagné ce joli quiz. Et peut-être une belle salle, dans quelques minutes, une belle salle où j'ai assisté la Défense. Et d'ailleurs, c'est dès maintenant. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir. On vous souhaite évidemment le meilleur dès mercredi dans toutes les bonnes salles.
Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Merci beaucoup.
Et on enchaîne tout de suite avec le Box Office France et Julien.
Alors, cette semaine a marché à 2,7 millions d'entrées. La semaine dernière, on était à 3,7. Et si on se replonge en 2022, c'était un mixte entre un jour férié qui était un vendredi, la sortie de Wakanda qui avait fait le meilleur opening week-end de l'année avec 1,5 million. Donc, c'est un petit peu différent, mais ça reste sur une trend positive qui a été boostée cette semaine, évidemment, par Five Nights at Freddy's ou The Marvels et une tenue des titres un petit peu plus délicate suite à la sortie des vacances.
Et puis forcément en tête ce week-end, c'est un démarrage, c'est Five Nights at Freddy's, comme tu le disais, voilà, il resplendit en France comme il a resplendi au box-office US, 466 000 entrées pour son premier week-end avec une moyenne par copie assez énorme de 1045 entrées, voilà, on ne s'attendait pas forcément à voir Five Nights at Freddy's démarrer au-dessus de The Marvels, je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'un film Marvel est dépassé lors de son week-end de sortie par un film autre que Marvel. Donc voilà, c'est déjà relativement assez notable comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite pour Five Nights at Freddy's, Julien ?
Bah déjà, on va dire que c'est, c'est la meilleure ouverture pour un film d'horreur en 2023, juste devant Scream qui avait fait 415. Une meilleure ouverture pour un film d'horreur en novembre. Et meilleure ouverture pour un film Blumhouse, quoi, Universal Blumhouse, juste derrière Paranormal, lui, qui était Blumhouse, mais pas Universal.
Et c'est l'horreur du coup qui est en tête cette semaine dans notre box-office France, et c'est l'horreur qui va être mis en avant à présent par UGC. Qu'est-ce qui se passe autour de l'horreur et du UGC, Charlotte ?
Et oui, ça a été annoncé aujourd'hui via un communiqué du UGC. En plus, nous sommes à l'UGC de la Défense et on défend un film d'horreur, donc aujourd'hui dont on a parlé. Et en fait, UGC rajoute un label au label bien connu, hein, UGCM, UGC Découvre, UGC Spectateur, qui va être UGC Frisson. Le premier film qui aura ce label sera Vermine, qui va être distribué par Tandem en décembre 2023. Le 27 décembre, merci Tom. Et c'est vrai que voilà, c'est intéressant de voir finalement UGC qui va surfer sur l'engouement qu'on peut avoir effectivement aujourd'hui pour les films d'horreur et qui a envie de booster un petit peu son public sur ce type de film. Voilà.
Reprenons le fil du classement et en deuxième position, Charlotte, on retrouve The Marvels.
Voilà, The Marvels dont on a déjà pas mal parlé hein, finalement, qui est une plutôt grosse déception hein, puisqu'il ouvre à 333 000 entrées. Il faut savoir que c'est le plus petit score pour un Marvel, tout simplement, hein, sur les 32 films MCU. Il démarre globalement comme The Flash, hein, qui avait ouvert avec 335 000 entrées, qui lui aussi était forcément une déception pour Warner, et qui finissait à 875 000 entrées. On en a parlé tout à l'heure, mais par rapport à Blue Beetle, hein, on parlait de Blue Beetle en tout cas en France, Blue Beetle ouvrait avec 190 000 entrées et avait une fin de carrière à 530 000. Donc, on pense en tout cas que ça va être très 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 compliqué d'atteindre le million, voire impossible.
Il y a beaucoup de très très
très. Tu crois pas beaucoup, Charlotte.
Tu crois pas beaucoup, effectivement. Mais on pense du coup, s'il dépasse pas le million, ce sera le seul Marvel qui ne dépassera pas le million. Et après, il faut savoir qu'en plus, quelque chose qui ne l'aide pas, c'est qu'il a une note Allociné spectateur assez basse, puisqu'il est à 2,4. Donc forcément, peut-être que le bouche-à-oreille va être compliqué.
Ouais, c'est là où ça peut avoir un impact, parce que c'est vrai que c'est le plus petit démarrage pour un MCU, mais vraiment tout juste, puisque Captain America First Avenger avait ouvert à 334.
Est-ce que c'est très 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 petit?
Et il avait passé le million, donc attendons avant de conclure, on verra. En tout cas, Flash n'avait pas passé le million, donc c'est vrai que ça va jouer, ça va être serré.
Attendons, en tout cas, on en saura plus dès la semaine prochaine. La semaine dernière, le leader, c'était Le Garçon et les Hurons, et cette semaine, Charlotte?
Eh bien, il est en troisième position. Alors, une troisième position qui a relativisé, puisque on en parlera tout à l'heure avec Tom, mais c'est vrai que l'Abbé Pierre a son cumul 290 000 entrées et, avec les avant-premières, et que Le Garçon et le Héron rajoutent finalement pour son deuxième week-end 275 000 entrées. Donc, techniquement, l'Abbé Pierre est quand même troisième avec les avant-premières.
Il est troisième du week-end.
Il y a des
barres. Il y a toujours le même débat.
Voilà. Donc ça reste le débat, mais en tout cas, comptons que Le Garçon et le Rond est troisième. Du moins.
Sinon, Five Nights, il est troisième, il est premier aussi.
Ouais, il est premier quand même.
Il est premier quand même.
Il est premier quand même.
Et donc.
De rien, de même pas de 12 000 entrées.
Exactement. Et donc Le Garçon et le Héron, voilà, pour son deuxième week-end, c'est un merveilleux démarrage pour ce Miyazaki, qui donc, comme je l'ai dit, rajoute 275 000 à son cumul, et qui frôle doucement mais rapidement finalement la barre du million, puisqu'il est à 978 000 entrées. Il faut savoir qu'aussi c'est un des plus beaux maintiens, hein, puisqu'il va chuter de 51%, et surtout pour un film d'animation, puisque on en parlera peut-être, mais c'est vrai que par rapport à la chute qu'a pu avoir Trolls par exemple, ou La Patte Patrouille, il se maintient vraiment très bien. Donc c'est super. Et c'est le quatrième meilleur score après 10 jours pour un Miyazaki, en dessous de Ponyo sur la falaise, Le Château dans le ciel, Voyage de Chihiro ou Le Château ambulant. Et je pense qu'on peut estimer une fin de vie aux alentours de 1,5 million.
On l'espère, on y croit, qu'il aille prendre la première place des Miyazaki. Comme tu dis, il est déjà en quatrième position par rapport aux fins de vie des films de Miyazaki. Donc il peut aller chercher haut, surtout qu'il se maintient bien cette semaine avec moins 53. Donc,
moins 51.
-51, merci Charlotte, il a tout pour aller chercher encore du gros score.
Le premier film français de la semaine, on le retrouve en quatrième position et c'est un démarrage, on en a parlé, il s'agit de L'Abbé Pierre, une vie de combat, sorti par SND, 290 000 entrées au compteur pour le film de SND. Voilà, ça va être une carrière a priori sur la longueur hein, pour le film avec Benjamin Laverne, mais en tout cas on peut espérer au forceps arriver au million d'entrées et puis peut-être un phénomène un peu à la Simone, même si Simone avait démarré au-dessus. Simone avait démarré avec 400 000 entrées en première semaine, mais voilà, il avait fini à plus de 2 millions d'entrées grâce aux scolaires. Il y aura, je pense, aussi des scolaires sur L'Abbé Pierre, ce qui pourra lui permettre de tenir sur une plus longue durée. En cinquième position, on retrouve un film dont on a déjà beaucoup parlé. Charlotte, je crois que tu vas intervenir dessus. C'est 3 jours max.
Oui, effectivement, c'est 3 jours max hein, qui se place donc en cinquième position, qui rajoute 180 000 à son cumul, qui a dépassé le million depuis longtemps. La bande à Fifi.
Ça marche toujours.
Voilà, exactement. Bon, il chute quand même de 64%, mais bon, il fait des scores honorables, comme toujours. Et donc, c'est toujours, encore une fois, pas étonnant pour eux, quoi. Ils sont très forts.
Julien, la barre des 2 millions pour 3 jours max, jouable ou pas ?
C'est pas évident. C'est pas évident. Si on prend les comps, il est à moins 16% par rapport à Épouse-moi, mon pote, qui avait fait 2,5 millions, mais à la même période, il était à 1 919 000. Il est quand même plus 20% au-dessus de Super Héros malgré lui. Lui, il était à 1 326 000 sur la même période. Et il s'est arrêté à 1 800 000, pardon. Donc voilà, ça va être tout juste. Il peut à suivre.
Ça va dépendre de la concurrence, en fait, aussi.
En sixième position, Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon, en quatrième semaine, Charlotte.
Oui, exactement, qui rajoute 113 000 entrées à son cumul de plus d'un million, hein, puisqu'il est à 1 122 000 pour la sortie de Paramount. Et voilà, il se rapproche vraiment de la carrière de Babylone, comme on l'avait dit dès le début d'ailleurs. Et donc on peut... Bon, il est un tout petit peu en dessous quand même de Babylone, mais donc on peut estimer une fin de carrière à 1,4 million, puisque Babylone avait fini à 1,5 million. Je ne sais pas, Julien, est-ce que tu es d'accord ?
Ouais, ça, on est à moins 8% par rapport à Babylone, 1,4 million.
En septième position, second tour d'Albert Dupontel, 838 000 entrées au compteur pour le film distribué par Pathé. La barre du million d'entrées semble accessible, ce qui ne sera pas le cas, ou du moins difficilement pour une année difficile, qui lui était retrouvé en 15e position, 855 000 entrées. Alors certes, on n'est plus très loin, mais attention, il fait quand même que 48 000 entrées sur ce week-end. Voilà, ça va vraiment être dur pour le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. On leur souhaite évidemment de passer cette barre du moment d'entrée. Côté film d'animation, ils se tirent toujours la bourre. C'est Les Trolls 3 et La Patte Patrouille. Les Trolls 3 est 8e, La Patte Patrouille est 9e, mais attention, leurs cumuls sont assez loin l'un de l'autre, mine de rien, puisque Les Trolls 3 cumulent 1 360 000 entrées, quand La Patte Patrouille a déjà dépassé depuis bien longtemps la barre des 2 millions d'entrées, 2 233 000 entrées. Julien, sur ces deux films-là, on est plutôt en fin de carrière, mais finalement, c'est des carrières qui vont tenir sur la durée jusqu'aux arrivées consécutives de Wish et de Migration.
Ouais, c'est ça. Alors, la période d'octobre, tu as un petit peu moins de temps derrière, puisque tu as des gros films d'animation qui arrivent assez tôt pour la période de Noël et qui vont les remplacer. Donc, comme tu le dis, on est en fin de carrière.
On a beaucoup parlé aujourd'hui des films d'horreur. Il en est également question avec Saw 10. Saw 10 qui, lui, est en 12e position, 543 000 entrées. C'est plutôt une très belle performance pour Metropolitan. Ça l'est d'autant plus que le précédent épisode avait vraiment sous-performé en France et avait à peine atteint les 50 000 entrées. Voilà, le spin-off avec Chris Rock. De Spiral, exactement. Tout à fait. On s'en rappelle de ce film. Voilà. Donc c'est plutôt une jolie performance pour Metropolitan, qui reviendra d'ailleurs avec un nouveau film, on va en parler tout à l'heure à l'affiche cette semaine. On doit évidemment parler du 10e, qui est un démarrage, La Passion du dos d'un bouffant chez Gaumont, 76 000 entrées, un peu à l'instar de L'Abbé Pierre, démarrage relativement décevant, mais c'est des films qui vont se faire aussi sur la durée, c'est des films de bouche à oreille. On peut espérer peut-être, Julien, sur La Passion du dos d'un bouffant, aller dépasser les 200 000 entrées, ça devrait pas être injouable.
Non, je pense qu'il ira même chercher un petit peu plus. J'ai envie de te dire au moins les 250, et puis après, on ne sait pas ce qui se passe, un petit peu, pas à l'image du consentement, puisque le consentement, c'est toujours affolant. Je ne sais pas, on ferait une petite recherche, mais quand même un film qui a démarré au premier week-end à 60 000, qui se retrouve à 488 000, et il est toujours dans les salles, il est toujours présent, c'est une des pertes les moins importantes, je crois, tu vas me corriger Charlotte, mais on est autour de moins 35.
Exactement.
Ça reste la meilleure tenue du top 15 pour être précis.
Ouais, en vrai, les carrières comme celle du consentement, il n'y en a pas.
Bah, c'est illisible, c'est tout simplement illisible d'arriver à, aujourd'hui à 500 000 entrées avec un premier week-end autour de 50 000.
Bah, j'ai déjà vu des week-ends à 80 terminer à 500, 60 et au-delà de 500, on va fouiller.
Ouais. En tout cas, il est 11e position. 11e position. Ce week-end, tu voulais rajouter quelque chose, Max ?
Moi, je voulais rajouter quelque chose sur la passion d'Audin Bouffant, qui est sur une combinaison pour le coup très réduite à 256 copies et qui a une moyenne par copie de 274. Et en fait, on aurait pu s'attendre avec cette combinaison qu'il est là, à ce qu'il ait la plus grosse moyenne par copie, notamment vu que c'est le film qui représente la France aux Oscars. Et c'est pas le cas, il a une moins bonne moyenne par copie que l'Abbé Pierre, Une vie de combat et que les deux démarrages qui sont en tête du box-office, et c'est peut-être une petite déception ça notamment pour Gaumont.
Mais également moins fort que Simple comme Sylvain qui lui avec 145 copies et une moyenne par copie de 377 cumule 61 000 entrées. C'est plutôt un démarrage je trouve satisfaisant pour le film de Monia Chokri qui était présenté, on le rappelle, à Cannes. Au niveau des autres démarrages, on retrouve en 25e position, on commence déjà à descendre, ça tourne à Séoul, Cobweb, sorti par The Jokers, donc c'est un film coréen de Kim Ji-woong, si je ne dis pas de bêtises. 11 000 entrées au total, c'est un petit peu décevant malheureusement. Goodbye Julia, sorti par ARP, lui cumule 8 485 entrées. Qu'est-ce qu'on peut noter également dans ce top on l'a dit tout à l'heure pendant l'entretien avec Mathieu Turie et Nicolas Rier, Le règne animal va dépasser ou a dépassé aujourd'hui au moment où on se parle le million d'entrées, 992 000 entrées au cumul, c'est évidemment une très très belle performance.
Et en parallèle du règne animal, il y a Bernadette qui était sorti le même jour et qui ne dépassera pas, c'est certain maintenant, le million d'entrées.
Messieurs, mesdames, madame, si vous avez besoin de rajouter quelque chose, c'est maintenant. Sinon, on passe tout de suite au film de la semaine prochaine. Eh bien, je crois que c'est tout bon pour tout le monde. Charlotte, c'est ton moment, c'est l'heure du quiz.
Oui, alors pas le quiz, le sondage Twitter.
Pardon, le sondage.
Le sondage Twitter qui n'est plus Twitter, qui est X maintenant. Eh bien, pour mercredi 15 novembre, nous avons 15 nouveautés, ce qui est un chiffre assez incroyable. Et puis Tom nous détaillera tout ça
et
juste après.
Moindres.
Et pas des moindres, effectivement. Et on a sélectionné 4 films parmi ces 15 nouveautés pour savoir un petit peu lequel vous avez le plus hâte de découvrir. Et alors, c'est assez fou parce qu'on a choisi donc Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le retour de cette franchise après 8 ans, si je ne me trompe pas. On a choisi qui va être sorti par Metropolitan. On a choisi How to Have Sex, la sortie de Condor, qui avait aussi été à Cannes, hors compétition, je crois.
Un certain regard.
Un certain regard, merci beaucoup Tom. Nous avons évidemment Gueule Noire, sorti donc par Alba, et Little Girl Blue, la sortie de Tandem. Arrivant tête, eh bien, deux films à égalité, à savoir Hunger Games et How to Have Sex à 36%. Juste en dessous, Gueule Noire avec 24%. Et enfin, Little Girl Blue avec 4%. Voilà, et donc après, on a quand même pas mal d'autres nouveautés. Tom, peut-être que tu veux nous en dire
tout
plus.
Tout à fait, comme tu l'as dit, ça ne sera pas les 4 seuls films cette semaine, puisqu'on retrouve également Comme par magie de Christophe Baratier avec Gérard Jugnot et Kev Adams, sorti par Apollo, Sound of Freedom, dont on va, je pense, beaucoup parler dans les semaines à venir, sorti chez Sage Distribution, et La fête continue de Robert Guédiguian chez Diafana, Le petit blond de la Casbah d'Alexandre Arcadi chez Dulac Distribution, Avant que les flammes ne s'éteignent de Mehdi Fikri pardon, chez Backfilm, L'incroyable Noël de Chaude le Mouton chez KMBO, Vincent doit mourir qui est également présenté au Festival de Cannes cette année, Little Girl Blue, on en a parlé chez Tandem, Nous étudiants chez Jour de fête, Ricardo et la peinture de Barbet Schroeder au film du Losange, Vigneron de Destiny chez Destiny, pardon, puisqu'en effet cette semaine, si vous êtes œnologue, vous le savez, c'est le Beaujolais Nouveau, donc ça tombe plutôt bien de sortir un documentaire sur le vin. Et enfin, on finit avec Les Voix Jaunes chez Sanossi Productions. Voilà, beaucoup de films cette semaine, dans la semaine à venir. On aura évidemment l'occasion de détailler tous ces démarrages la semaine prochaine. Je vous remercie Charlotte, Max et Julien pour vos interventions. Voilà, vous faites les pitres, hein, ils sont en train de se prendre en photo. On peut plus terminer ce podcast dans de bonnes conditions. C'est pas grave, tout est dit, on a eu un super entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et nous on se dit à très vite sur Débrief Films.